Bonjour David, bonjour à tous. Le SDIS des Deux-Sèvres a inauguré en fin de semaine dernière son nouveau plateau technique permettant de former les sapeurs-pompiers du département. Des jeunes sapeurs-pompiers de l'Argentonais se sont eux distingués pour un court-métrage visant les comportements à proscrire dans les casernes. La cinquième édition de la journée du droit au collège ce mardi, les avocats de Sévriens se déplacent ainsi pour expliquer le fonctionnement de la justice. Alain Ligné, aujourd'hui dans l'opposition, Toircez n'a rien perdu de son mordant. Il estime que l'équipe de Bernard Pénault manque de réactivité face à la crise. Cela fait déjà 5 ans maintenant que les bibliothèques du Bocage Bressuré sont gratuites. Le nombre d'abonnés a ainsi grimpé de 50%. Dans l'actualité sportive, les archers de Lotiz Dardin se sont distingués lors des récents championnats de France organisés en Seine-Saint-Denis. Et puis c'est le retour au championnat de France pour Cholet Basket avec un déplacement ce mardi soir au Mans. Quant à la météo, de belles éclaircies annoncées pour cet après-midi. C'est un plus indéniable pour les pompiers de Sévriens. En fin de semaine dernière, à Choret, le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, inaugurait en effet son plateau technique. Une plateforme plus moderne pour les formations internes des soldats du feu des Deux-Sèvres, mais aussi pour les entreprises et les collectivités qui viennent pour des sessions de secourisme. 1 200 000 euros, le montant de l'investissement pour la construction et la modernisation de ce plateau technique qui permet aux sapeurs-pompiers d'être plus performants. Les précisions du lieutenant-colonel Grignard du SDIS des Deux-Sèvres au micro de D4B.
La formation est chez les sapeurs-pompiers quelque chose de continuel. Par exemple, chaque pompier volontaire fait au minimum 44 heures de formation par an. Le centre de formation aujourd'hui, c'est 9000 journées stagiaires. C'est très important. Et effectivement, plus on se forme, plus les technologies évoluent, nous on doit se remettre en question. Donc là, c'est pour à la fois assurer la sécurité de nos intervenants, mais également être plus efficace sur l'opération. On a, nous, un centre de formation qui est à la taille humaine, en fin de compte, de notre département, mais qui, sur certains modules, par exemple le module panneau photovoltaïque et toiture pédagogique, et ici, question incendie, est un peu innovant parce que forcément on est les derniers, donc forcément on dispose des derniers équipements.
En Deux-Sèvres, on compte à ce jour 227 sapeurs-pompiers professionnels et 1400 volontaires. Les jeunes pompiers d'Argentonais, de Bouilly et Loré ont eux réalisé un court-métrage projeté en avant-première il y a quelques jours lors du dernier carrefour JSP du Congrès National des Pompiers de France. C'était à Nancy. Un court-métrage qui avait reçu une belle ovation. Il vise à alerter sur des dérives qui pourraient arriver dans les casernes. Harcèlement moral, cyberharcèlement, abus d'influence, des comportements qui n'ont pas leur place dans les casernes comme partout ailleurs. Écoutez Aurélien Templon, membre de l'Association des jeunes sapeurs-pompiers de Sévriens, coordinateur du projet. Projet soutenu par les pompiers de France, l'association Colosse au pied d'argile et bien entendu les sapeurs-pompiers des Deux-Sèvres.
On l'a réalisé à des fins de prévention, mais en tout état de cause, le but est effectivement de ne pas avoir à être confronté à ce genre de comportement et surtout de pouvoir ouvrir le dialogue et laisser les langues se délier sur ce sujet pour que nous, on puisse, au sein de l'association et du bureau, pouvoir accompagner un jeune qui pourrait être dans ce genre de difficultés, que ce soit entre jeunes et adultes, et pourquoi pas dans la sphère familiale, puisqu'on a aussi nous cette vocation de pouvoir être présent chez le jeune dans sa construction, dans son adolescence. C'est vrai qu'on a eu la chance d'être soutenu par notre direction, parce que c'est un sujet qui est plutôt difficile à porter. Pour le coup, on a préféré, nous, agir en prévention plutôt que de devoir réagir à ce type de déviance. Et voilà, nous, on a un rôle au sein de l'association aussi de formation sur la citoyenneté, sur les différentes difficultés qu'un jeune peut avoir à subir pendant son enfance. Et donc, voilà, il nous paraissait important, nous, de pouvoir aussi être présents sur ce volet-là, bien qu'il soit tabou dans notre corporation.
Ce court-métrage de 5 minutes est amené à être diffusé auprès de toutes les divisions de jeunes sapeurs-pompiers de France lors de leur première année de formation. Vous pouvez le découvrir sur le site ADJSP79. La cinquième édition de la journée du droit au collège ce mardi. Il s'agit d'une journée nationale organisée conjointement par le Conseil national des barreaux et le ministère de l'Éducation nationale. Sommes-nous tous égaux devant la justice? C'est autour de cette question que s'articule cette édition 2022. Des avocats du barreau des Deux-Sèvres participent ainsi à cet événement en allant à la rencontre des collégiens. Ce sera le cas du bâtonnier maître Jean-Aurélien Liozin, joint par Fabien Gazot.
C'est qu'on puisse exposer aux collégiens les grands principes de la justice, le fonctionnement de la justice en France, leur expliquer qu'ils ont des droits et puis répondre à toutes leurs questions sur le fonctionnement de l'institution judiciaire.
Alors c'est l'occasion aussi de rappeler peut-être à ces collégiens que quand ils sont victimes, par exemple, on pense notamment au collège, hein, on pense au harcèlement sous toutes ses formes, et bien que la justice est là pour les aider finalement.
Tout à fait. Le harcèlement, ça fait partie des thèmes qui avaient été abordés il y a un ou deux ans, là, justement, dans le cadre de la journée de droit au collège. Donc c'est bien de leur rappeler, leur faire comprendre que tout le monde en France a des droits et qui doivent être respectés.
Maître Jean-Aurélien Liozin, bâtonnier du barreau des Deux-Sèvres. Des interventions ont donc lieu ce mardi dans plusieurs collèges de notre département. Molière à Loré d'Argenton, Saint-Charles à Thouars, Raymond Bingo à Lapsy, Clémenceau à Cerizay, Antoine de Saint-Exupéry à Brioux-sur-Boutonne, Supervielle à Bressuire, Voltaire à Hervaux ou encore Pierre Médès France à Parthenay. Direction Thouars maintenant, où Alain Ligné fait sa rentrée en lanceur d'alerte. Jamais entendu. L'ancien maire de Thouars déplore en effet le manque d'anticipation de la crise par l'équipe de Bernard Pénon, en s'appuyant sur l'alerte qu'il avait lancée lors du débat de rotation budgétaire le 17 mars dernier. 6 mois après, les chiffres semblent lui donner raison grâce aux précisions récemment apportées par le maire Bernard Pénon lui-même. L'opposant à la mairie enfonce le clou au micro-colline de Dominique Hérault.
L'état des lieux, on peut déjà le situer que pour la commune de Thouars et non pas pour la conduite commune du Thouarsais. Puisque sur ce point-là, nous n'avons aujourd'hui aucun élément d'information de transparence. Pour la seule commune de Thouars, sur les deux postes principaux, nous avons deux éléments de réponse. Le premier, une augmentation de 250 000 euros de dépenses supplémentaires pour la rémunération des agents des collectivités. Ce qui est tout à fait normal, c'est l'État qui a décidé, la commune doit s'exécuter. Et l'autre, qui est donc ce chiffre hallucinant de 800 000 euros de dépenses supplémentaires rien que pour la facture énergétique en 2023. Nous sommes donc, rien que sur ces deux postes principaux, à plus d'un million d'euros de dépenses supplémentaires pour l'année prochaine, sur un budget de fonctionnement qui convient de rappeler, qui est de 17 millions d'euros. La seule réponse que Bernard Pénot nous avait donnée le 17 mars lors du débat d'orientation budgétaire, c'était de dire « ne vous inquiétez pas, il y a une ligne qui s'appelle les dépenses imprévues et tout va bien ». Vous savez quel est le montant de cette ligne ? 50 000 euros.
Une dépense 20 fois supérieure à celle potentiellement prévue il y a 6 mois à l'époque où, il est vrai, les nuages n'étaient pas aussi noirs. Alors pour 2023, il va falloir resserrer les boulons, ici comme ailleurs, et trouver des ressources pour payer l'augmentation du salaire des agents et celle de l'énergie. Alain Ligné.
Peut-être une augmentation miracle des recettes de nos partenaires, du département, de la région ou encore de l'État. Mais ça a peu de chances d'arriver. Une hausse des impositions, qui est la deuxième solution, alors que les taux d'imposition sont déjà très élevés à Thouars, et qu'ils le sont encore plus pour les habitants des communes déléguées. La troisième solution, eh bien, ce sont les services qui vont devoir en pâtir, donc services internes, mais aussi le service aux habitants. Donc lesquels ? C'est la question que nous posons là aussi.
Ultime solution, rogner sur les investissements, c'est-à-dire sur les projets. Cette voie du renoncement ne semble pas être celle de la majorité Pénot, qui se voit plutôt entreprenante. Reportage signé Dominique Hérault. Bilan très positif pour la gratuité des bibliothèques du Bocage Bressuire. Cela fait 5 ans maintenant que l'abonnement est gratuit dans toutes les bibliothèques du territoire, avec un succès incontestable puisque le nombre d'abonnés est passé de 8200 à 12500, soit 16,3% de la population. On se rapproche du taux national, qui est de 17%. Selon ce réjouit Marie Jarry, qui a su convaincre ses collègues élus il y a 5 ans, cette dernière est toujours vice-présidente de l'agglomération du Bocage Bressuire, chargée de la culture.
Non, il n'y a plus de débat parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ça correspond à une ouverture souhaitée de certains lecteurs potentiels. Donc tout va bien, on est très très contents.
D'autant que l'argument quand même définitif il y a 5 ans, c'était que les recettes étaient assez peu élevées en ce qui concerne les inscriptions.
Alors c'est vrai que les recettes étaient d'environ 20 000 euros, mais sur ces 20 000 euros, il y en avait à peu près la moitié, 10 000 euros, qui servaient pour le travail fait autour des inscriptions et on s'est rendu compte qu'il ne restait que 10 000 euros de recettes. Et je me souviens qu'à l'époque, Jean-Michel Bernier, qui était notre bien-aimé président, pour lui, c'était évident que ça ne valait pas le coup de batailler et d'essayer de mettre un tarif moyen commun sur toute l'agglo. Parce qu'à l'époque, souvenez-vous, on avait différents tarifs, certains étaient même déjà gratuits et c'était assez compliqué à mettre en place.
L'agglo investit chaque année 2 euros par habitant, soit 160 000 euros pour renouveler l'offre dans les bibliothèques et médiathèques. Elle comptabilise 230 000 documents pour un volume de 300 000 prêts par an. Un bon ratio pour l'équipe des bibliothécaires dirigée par Brigitte Grelot.
Oui, on a élargi le spectre des abonnés. On avait des abonnés qui venaient en bibliothèque parce qu'ils ils avaient besoin de venir en bibliothèque. Ils étaient des habitués des bibliothèques. La gratuité a fait venir un public qui n'était pas forcément familier des bibliothèques et à qui il a fallu apprendre, en fait, les usages, le règlement, et du coup pas forcément avec beaucoup de presse et pas forcément des gens qui viennent pour emprunter 20 documents à la fois. Ils empruntent des choses qui leur sont nécessaires, qui leur font plaisir, et du coup pas forcément énormément.
En plus d'abonnés, avec toujours cette volonté de développer encore ce nombre d'abonnés pour se rapprocher de la moyenne nationale, et peut-être aussi combler un déficit là chez les 15-30 ans surtout.
On a encore plein de choses à faire avec ce public là et pour les adolescents, donc on aimerait développer le wifi tout simplement pour qu'ils puissent travailler sur place, trouver du wifi, s'installer, télécharger, c'était aussi des choses comme ça pour les attirer.
Les bandes dessinées, les mangas, les polars sont les documents les plus prisés dans les bibliothèques, alors que les recueils de poèmes sont plus souvent cantonnés à leur rayon. Le service de navette mis en place il y a quelques mois donne également satisfaction, on aura l'occasion d'en reparler. On en arrive à l'actualité sportive. Les archers de Lotise ont brillé lors des championnats de France organisés à Gagny en Seine-Saint-Denis ce dimanche. Deux titres de champion de France et des places d'honneur pour le club d'Ardin, toujours au top dans les différentes disciplines du tir à l'arc. On parle là du championnat de France Beursault. Explication avec Christophe Tisseron, le président du club.
C'est une discipline traditionnelle du tir à l'arc. En fait, elle date du Moyen-Âge, lorsque les archers défendaient leur ville. Et donc, ils tiraient une flèche à 50 mètres dans un sens et une flèche à 50 mètres dans l'autre pendant 40 fois. Et ils faisaient des tournois comme ça, qu'on appelle donc le tir à l'arc Beursault. On n'a pas le droit à l'erreur, on tire 40 fois une flèche. Et il faut vraiment que ces 40 flèches soient dans la cible pour espérer le meilleur classement possible.
Deux titres donc ce week-end pour les archers de Lotise, avec Côme Rondard en Benjamin et Juliette Tisseron, championne de France dans la catégorie senior 1 Pouli. Le tir à l'arc est suffisamment diversifié pour maintenir les compétiteurs sous pression toute la saison.
Ces deux titres qui couronnent une saison très bien remplie, très chargée, avec de nombreuses médailles au championnat de France en tout cas. On a des disciplines, c'est ce qui permet justement de pouvoir assouvir ses passions, on va dire. Dans le tir à l'arc, on a plusieurs disciplines et qui se pratiquent toute l'année. Ça peut être du tir en salle, ça peut être du tir nature, ça peut être du tir 3D, ça peut être du tir olympique, ça peut être du tir Beursault justement. Et donc avec toutes ces du tir en campagne et avec toutes ces disciplines, on est, je vais pas dire occupé toute l'année parce qu'il faut faire évidemment des choix, mais en tout cas on peut assouvir ses passions et trouver son bonheur dans une ou plusieurs disciplines.
Christophe Tisseron, président des archers de Lotise, Ardin, à propos d'un championnat de France exceptionnel pour les Deux-Sèvres, car Serena Dolci du club de la Crèche remporte également le titre de championne de France dans la catégorie Benjamin. En basket, après avoir décroché sa qualification pour la FIBA Europe Cup en fin de semaine dernière, Cholet renoue ce soir avec le championnat de Betclic Elite. L'équipe des Mauges se déplace en effet sur le parquet du Mans dans ce derby des Pays de la Loire. L'entraîneur de Cholet Basket, Laurent Villa, au micro colline de François Larue.
Forcément, maintenant, on va entamer, comme tu dis, un nouveau cycle. Et maintenant, il faut être prêt. On a la possibilité de faire de belles choses, mais il faut concrétiser par ce qu'on va faire sur le terrain.
Est-ce que tu redoutes aussi peut-être un peu d'excès de confiance? Est-ce que ça aussi, ça peut être là?
Ouais, c'est un peu lié. C'est-à-dire, on a atteint un objectif. Chacun, après, pense à cette situation de sa façon personnelle. Maintenant, le but, c'est de remettre tout le monde sur le terrain et dire, voilà, on repart à zéro. Les joueurs sont des compétiteurs, ils veulent faire deux compétitions dans l'année, et ils sont là pour ça, mais ils y savent aussi, et c'est très clair, priorité au championnat de France. Ensuite, il y a la FIBA World Cup. Autant avoir des résultats dans les deux compétitions.
Championnat de France donc pour Cholet Basket ce soir avec un déplacement au Mans, coup d'envoi à 20h avant que les Choletais ne retrouvent la Meilleraie avec la réception de Strasbourg samedi soir prochain. Un match qui sera bien entendu à suivre en direct sur Colline.